Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Balogi, qui présente Augure dans la section Un certain regard ici à Cannes, et qui enlise pour la Caméra d'Or, car c'est un premier long métrage. Bonjour Balogi.
Bonjour.
Le personnage principal du film, Kofi, de parents congolais, habite en Belgique avec sa petite amie Blanche qui est enceinte et il décide de faire le retour au pays, le fameux retour au pays, un thème très intéressant, assez complexe, un pays dont il n'ignore la langue puisqu'il va apprendre le swahili à cette fin, que je trouve est bien représenté, bien contenu dans le moment où il se coupe les cheveux. Il a une afro quand il est en Europe et pour aller en Afrique, il la coupe et je trouvais que c'était assez symbolique.
Ouais, écoute, la narration d'Augure démarre en fait du point de vue de Kofi, donc c'est un film choral. Et je sais que le terme choral fait un peu peur parce que du coup on s'imagine une narration en petite scénette, mais en fait les quatre personnages qui sont narrés dans le film Augure se rencontrent, ont des interactions, ont des liens familiaux, etc. Mais on démarre du point de vue de Kofi qui effectivement revient de Belgique vers le Congo. Puis en fait, son point de vue n'est pas celui qu'on va suivre tout du long. En fait, on pense que c'est lui la victime d'une société, d'une structure patriarcale qui pèse sur les gens. Et en fait, on se rend compte que sa sœur et sa mère en particulier en sont les premières victimes, en fait.
Comme on entre dans le film d'un point de vue qui est le point de vue qui est le mien, européenne blanche, on a l'impression de faire une découverte. Et c'est vrai que, est-ce que vous l'avez pensé aussi comme une initiation, un peu, ce film ?
Oui et non, parce qu'en fait, j'ai voulu en faire une espèce de MacGuffin, vraiment à la Hitchcock, c'est-à-dire d'avoir qu'on pense que le sujet du film va être celui qui se développe pour un moment à l'écran pendant le premier quart d'heure. Puis après, la narration bascule vers autre chose. Et parce que c'est le type de cinéma le plus attendu, en fait, pour quelqu'un issu de la diaspora, c'est de raconter le retour au pays, avec tout ce que ça représente, etc. Et je voulais pas raconter spécifiquement ça, je voulais raconter peut-être également le point de vue de ceux qui sont restés. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage de la mère, à un moment, dit à sa fille, T'Challa, ben, je t'envie parce que t'as le courage de partir. Moi, je l'ai pas eu. Et T'Challa ne décide pas d'aller en Europe, elle a aucune projection, aucun fantasme sur l'Europe, elle veut aller vivre en Afrique du Sud. Et aller en Afrique du Sud raconte aussi une façon de s'émanciper, raconte aussi une Afrique qui est différente de celle qu'on nous projette tous les jours de migrants, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont un PIB qui rendrait jaloux la moitié des pays européens, et c'est intéressant d'aussi développer cet aspect-là. Et c'est dur surtout pour Maman Mujila, le personnage de la mère, qui elle reste. C'est dur pour Paco, l'enfant des rues, qui lui aussi reste. Et voilà, donc c'est pour eux, c'est eux pour moi les personnages qui ont un parcours narratif hyper cabossé, hyper compliqué, ouais.
Mais le personnage de la sœur et son histoire d'amour avec un Sud-Africain permet aussi de montrer que un Sud-Africain noir aussi peut être interloqué par les traditions.
Ouais, bah en fait c'est une opposition de rationalité et de rapport à l'animisme. Et je trouvais ça intéressant de jouer là-dessus sur ces codes. Et voilà, on a développé ce côté-là, mais en même temps. Je pense pas qu'il se met en opposition, c'est juste qu'il ne comprend pas pourquoi ils ne vont pas voir ce qu'il appelle un real doctor, un vrai médecin.
Alors, pour repartir sur Kofi, qui est quand même notre personnage d'entrée, il arrive avec des raisons personnelles et tout à fait universelles. C'est-à-dire, ce qu'il voudrait, c'est que il va avoir ses enfants, il voudrait que ses parents renouent avec ses parents pour qu'ils soient gaga de leur petit enfant comme tous les parents. Et c'est vrai que cet amour universel qu'on sent, qui existe aussi dans les liens familiaux, il est mis face à des choses dont il doit s'acquitter. Il doit réunir une dot, il doit faire des versements, il y a voilà les traditions et donc la sorcellerie qui, on n'a pas encore dit le mot, et cet univers qui semble aller contre la simplicité des sentiments assez purs et avec lesquels il arrive.
Oui et non, parce qu'en fait, à aucun moment le guérisseur ne dit autre chose que des paroles bibliques. Donc en fait, ce sont des mots qui ne sont à aucun moment dans le jugement. À aucun moment il insulte, à aucun moment il est méprisant, il estime. À nouveau, on parle de société comme la société française l'est aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est inexplicable, il faut qu'on trouve une victime, un coupable expiatoire. Et donc le coupable serait le mystique, serait machin. Comme ici, je pense que la montée des partis d'extrême droite prouve qu'on cherche toujours des responsables, toujours des coupables. Donc c'est des sociétés qui sont assez similaires en fait.
Oui.
C'est juste que elles sont traitées sous le prisme du réalisme magique, mais à aucun moment on ne parle d'une société qui est dénuée de sens et qui est anachronique, vu qu'en fait les paroles sont bibliques tout du long.
La raison pour laquelle peut-être je l'ai remarqué, c'est parce que cette opposition, elle se manifeste même avec des enfants totalement innocents. Kofi est né avec une tache, et cette marque lui a fait comme peser sur lui d'emblée, à peine né.
Bien sûr, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'assignation à ce qui n'est pas explicable, tient du maléfique. Mais comme c'est le cas ici, tout ce qui n'est pas explicable, tout ce qui est problématique tient de la menace qui va contre l'ordre général. C'est nos sociétés, elles sont identiques. Donc il n'y a pas de je voudrais pas du tout qu'on soit Kofi au pays des sauvages, c'est pas du tout ça. Je voudrais pas du tout qu'on se méprenne là-dessus d'une société arriérée, passéiste, qui a des codes qui sont primitifs. C'est pas du tout le cas.
Comme vous voyez, j'essayais, je suis partie avec une envie de comprendre et d'analyser un peu ce qui se passe comme phénomène. Et à un moment dans le film, je pense la première scène des enfants, des gangs d'enfants. J'ai cessé de vouloir m'accrocher à des lignes de raisonnement et des réflexions, ouais. Et je me suis complètement abandonnée à cette espèce de transe, à cette espèce de exubérance aussi de l'univers du film. Il y a un moment comme ça où on commence, ça y est, à habiter vraiment cet univers. Donc on n'y est plus étranger, on entre complètement.
Ouais, en fait, moi, j'inscris totalement mon film dans un univers fantasmagorique. Donc, c'est-à-dire que déjà, la géographie du lieu n'est pas définie. On l'a tourné dans deux villes qui sont éloignées de 3000 kilomètres. J'ai l'habitude de présenter la géographie de ce film comme si c'était New York pour le centre-ville et Los Angeles pour dès qu'il sortait un peu dans la campagne. Et donc, c'est une combinaison de ces codes. Et donc, on est sur rien de plausible. La fanfare sont des musiciens habillés de la Nouvelle-Orléans. Ça n'existe pas, des musiciens habillés de la Nouvelle-Orléans à Kinshasa ou en Gilles de Binche, patrimoine de l'UNESCO en Belgique, des festivals de carnaval. Ça n'existe pas non plus. Donc on est totalement dans des livreurs de bébés n'existent effectivement pas non plus. Donc le film raconte par l'absurde des situations assez qui sont difficiles à vivre, parce que on a tous été confrontés sur le continent à des questions d'assignation sociale, identitaire, voilà.
On est tous confrontés à des thèmes aussi familiaux. Ce qui est amusant, c'est que quand le père disparaît, le frère dit à la mère qu'elle peut rester encore dans son logement, mais qu'elle va devoir partir. Et c'est, il y a un autre film, d'ailleurs aussi, ici à Cannes, qui est carrément articulé autour de ça, d'une femme qui, une fois son mari mort, n'ayant pas d'héritier masculin, est virée de chez elle. Donc, ça, c'est des thèmes, clairement, qui sont universels de la famille. Et puis, bien sûr, celui d'aller dans l'excavation et de partir en quête de secrets, familiaux. D'ombres qui ont pesé peut-être sur les liens d'affection qu'on recherche.
Non, mais je crois que vous remarquerez que les hommes sont très peu présents dans ce film. Leur injonction, leur code, ces obligations misogynes qui pèsent sur les personnages féminins de cette narration sont au cœur du sujet du film, c'est-à-dire qu'on vit réellement dans une société qui te dit que, en tant que veuve, tous les biens que tu possèdes reviennent à la famille de l'époux décédé, donc le paternel, qui reprend tous les acquis, tous les biens. Et ça, c'est une réalité. Donc, j'ai voulu raconter un peu ça, comment elle est ramenée à sa condition de sorcière, en fait. Donc de paria de la société. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de la mettre en miroir avec le parcours de Kofi qui démarre avec ce truc de « je suis un paria ». Et en fait, sa tâche de vin n'est pas si importante que ça, vu que c'est un sujet qui disparaît. Et on se rend compte que celle qui porte la réelle blessure, la plaie béante qui paraît souterraine et qui après apparaît aux yeux de tous, est le personnage de la mère. Mais je peux comprendre qu'on donne l'impression de suivre Kofi. Et ça, je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai été un peu fatigué par tous les structures de fonctionnement, de guichets pour les octrois de financement des films qui veulent des narrations qui soient racontées d'un point de vue européen. Donc je me suis dit, si c'est ce que vous voulez que je vous raconte, je vais faire semblant que je vous raconte ça, mais en fait je vais vous raconter totalement autre chose.
Et d'ailleurs, vous commencez sur une quête du père, qui est un motif très universel, mais vous l'avez, le père, finalement, il est, à travers le motif de la mine, il disparaît de l'image et du récit pour laisser la place à ces personnages féminins dont vous parliez.
Ouais.
C'est un peu comme ça que vous entendiez la mine.
C'est comme ça que j'ai construit, en fait, la narration, puis la mine, à l'image un peu de, c'est la métaphore du marin, en fait, des marins qui partent et tu ne sais pas quand ils reviennent. Effectivement, donc on joue toujours aussi, par exemple, avec les oiseaux, par rapport aux auguriens, historiquement, ce que ça implique. Donc ils vont dans la mine, ce qui n'est pas aussi plausible, avec des oiseaux, avec chacun un oiseau dans la cage qui leur permet de survivre, et un jour il ne le prend pas. Donc arrive l'incident, et donc voilà, on joue avec des codes. Et plein de symbolismes, que ce soit des symboles qui soient européens ou grecs, à fortiori avec le titre du film, des imageries anglo-saxonnes, africaines, je pense à Hansel et Gretel, qui est également présent, et c'est aussi pour ramener le spectateur européen sur des choses qu'il connaît, effectivement, de la sorcellerie qui passe toujours par la main de la d'une femme, la main nourricière, contamine l'enfant. Et donc ça dit beaucoup de notre société, en fait. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai construit cette narration, en forme de parcours initiatique d'une certaine manière, mais en fait le parcours initiatique n'est pas ce qu'on croit.
Merci beaucoup Balogi pour ce film Augure.
Merci à vous.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.